L'intitulé de mon exposé, c'est la position géopolitique du bloc nord-américain. Et le fil conducteur de cette présentation, ça sera d'établir un état des lieux de ce bloc. Alors, le terme bloc, bon, on pourra le discuter éventuellement. Donc, un état des lieux des trois pays qui sont liés par le traité de l'ALENA, en vigueur depuis 1994. Alors, plutôt que d'un bilan, il s'agit d'une analyse géopolitique reposant à la fois sur des éléments de force, on va voir, les grandes ressources de l'Amérique du Nord, et quelques éléments de faiblesse, bien sûr, internes aux trois pays concernés. Et en fait, c'est une sorte d'évaluation, sans être prétentieux, bien sûr, de cet ensemble régional. Faut-il dire bloc régional ? C'est pas sûr, puisque en fait, ce qu'on appelle un bloc, vraiment, c'est quelque chose d'une union qui est normalement une union douanière ou un marché commun. Là, il s'agit simplement d'une zone de libre-échange, et on a vu à quel point, disons, elle était à géométrie variable, disons, comme on dit. Alors, on pourra essayer aussi de regarder rapidement ce bloc ou cet ensemble régional, l'évaluer par rapport à d'autres grands ensembles géopolitiques du monde contemporain, puisque nous sommes, enfin, ça c'est ma position, dans un monde multipolaire. Que l'on regarde l'Union européenne, que l'on regarde des nouvelles puissances ou des grandes puissances, comme, ou des puissances en devenir, comme la Chine, les pays d'Asie-Pacifique ou encore l'Amérique du Sud. Alors cette approche géopolitique, bon, c'est mon approche personnelle, je suis géographe de formation et je pratique la discipline de la géopolitique. Cette approche géopolitique de l'étude des relations internationales permet précisément de croiser des analyses qui sont fondées sur la géographie physique, l'espace physique, la géographie humaine, on va le voir tout à l'heure, avec les dimensions de pouvoir, de puissance, et aussi évidemment les relations internationales. Alors j'ai la chance, enfin où j'ai le privilège, on peut dire évidemment par rapport à vous, d'un regard extérieur, puisque je ne suis pas membre d'un des trois pays de l'ALENA, je suis français, je viens de Paris, mais j'ai la chance aussi, et vous peut-être vous l'accepterez, de connaître assez bien, disons, les trois pays. J'ai vécu au Canada pendant 5 ans, d'ici dans la province de Québec. J'ai enseigné à Québec et à Montréal. Et je remercie, par le fait même aussi, je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs de l'invitation qu'ils m'ont faite. Je suis extrêmement sensible au fait de venir à Montréal, qui est une ville que j'aime beaucoup. Donc je remercie Michel, je remercie Christian et je remercie aussi le professeur Dorval Brunel, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, pour cette invitation. Mais je connais aussi évidemment les États-Unis et puis le Mexique. J'ai pas mal passé de temps au Mexique. Quand j'étais étudiant, j'avais fait ma maîtrise sur un sujet mexicain. J'ai eu l'occasion de garder d'excellents contacts avec des collègues mexicains et de retourner dans plusieurs États mexicains. Je ne prétends pas connaître l'ensemble du Mexique. C'est un très grand pays. Alors prenons déjà justement cet ensemble continental et commençons par les éléments de base, de géographie de base, les espaces d'abord. Donc, on a affaire à un continent de très grande superficie. Donc, je ne vous apprends rien. Ce sont des choses que, simplement, je rappelle, justement pour les mettre en perspective dans une approche géopolitique. Je ne vous apprends rien. 21,8 millions de kilomètres carrés, presque 22 millions de kilomètres carrés. Un continent qui est bon, un sous-continent, c'est le continent nord-américain, qui est relativement isolé d'une certaine manière par rapport aux autres continents. Il est ouvert sur trois grands océans, l'océan Atlantique Nord, évidemment, l'océan Pacifique, qui est le plus grand océan du monde, les mers étant beaucoup plus importantes, comme vous le savez, à la surface du globe que les domaines continentaux, et puis aussi, évidemment, au nord, l'océan Arctique. Donc, trois grands océans, et parmi ces océans, des espaces parmi les plus parcourus dans le monde et les plus reconnus depuis plusieurs siècles. C'est le premier point, les espaces. Toujours parler de rappeler cette grande superficie. On a des pays qui sont parmi les plus grands du monde. Disons, le plus grand, c'est la Russie, bien entendu, mais le Canada vient juste derrière. C'est le deuxième grand pays dans le monde par la superficie, près de 9 millions de kilomètres carrés. Les États-Unis, troisième rang, 8 millions et plus, 8 600 000 kilomètres carrés. Et le Mexique, disons, est nettement moins grand, mais c'est un pays qui, quand même, mesure, qui fait 2 millions de kilomètres carrés. Donc, je dirais, c'est un point intéressant, c'est une carte politique, une carte géopolitique très simple. Nous n'avons que 3 pays, alors qu'en Europe, l'Union européenne a déjà 27 et 28 pays, donc, et des pays de petite dimension. Donc, un territoire très restreint par rapport à ces ensembles géopolitiques de grande importance. Donc, 3 pays qui ont leur propre personnalité, bien sûr, et qui sont issus, comme ça a été dit ce matin, de la colonisation, bien sûr, de la colonisation, en rappelant les 3 titres, effectivement, la Nouvelle-Espagne, la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-France, c'est vrai. C'est une situation tout à fait particulière et privilégiée, parce que, en fait, c'est un élément de force par rapport à des tableaux politiques complexes, qu'on pense, par exemple, à l'Asie du Sud-Est. Vous avez les 10 ou 12 pays de l'ASEAN, vous avez les pays de l'Océanie, évidemment, des situations géopolitiques qui sont beaucoup plus compliquées. Alors, c'est une région qui est sans conflit. Alors, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de friction ou de problème, sans guerre ouverte. C'est pas le cas de tous les continents. Vous avez en Afrique énormément de guerres ouvertes. Même en Europe, nous avons eu malheureusement encore assez récemment des guerres ouvertes dans les Balkans. Il y a quelques différents territoriaux, mais ces différents sont pas tellement importants. On va rappeler le différent dans la mer de Beaufort entre le Canada et les États-Unis. Alors évidemment, il y a des enjeux pétroliers là, parce qu'on a affaire à une région qui est certainement très riche en hydrocarbures et en gaz, hein, puisqu'on sait que le delta du Mackenzie est déjà très riche en gaz. Donc dans la mer de Beaufort, il y a certainement des intérêts. J'ai noté un différent territorial, alors ça nous intéresse, puisque c'est un différent territorial entre le Canada et un pays européen de l'Union européenne, c'est le Danemark. À propos d'une petite île, on m'a dit que cette petite île, on pourrait regarder sur un atlas, l'île de Hans ne fait que 1 km carré et elle se trouve toute proche entre le Canada et le Groenland. Alors là, il y a un petit point quand même qui touche l'Union européenne. Et puis alors évidemment, il y a des différends qui ont été relevés, disons, dans les dernières années, on n'en a pas tellement parlé, mais enfin, pour la circulation dans le passage du Nord-Ouest. À partir du moment où le passage du Nord-Ouest, disons, avec l'aide de Fort Brise-Glace, bien entendu, avec l'aide de repères, d'installations, de radars, etc., sur les côtes canadiennes, le passage du Nord-Ouest pourrait voir passer quand même des navires qui permettraient de raccourcir considérablement la circulation, disons, entre, par exemple, l'Union européenne et le Japon, par exemple. Troisième point, la population de ces pays. Eh bien, la population n'est pas négligeable. On a rappelé les chiffres, là, j'adhère à ce chiffre, 470 millions d'habitants, donc vous avez quand même une population assez dynamique. En particulier les États-Unis, le Mexique, c'est une démographie assez dynamique, puis le Canada aussi, puisque le Canada accueille quand même pas mal d'immigrants, donc la population monte, même si, évidemment, les taux de natalité commencent à baisser, bien sûr, dans tous ces pays-là, il y a un certain vieillissement. Mais le vieillissement est moins important que dans d'autres régions du monde, moins important qu'en Europe, évidemment. L'Europe est un continent très, très vieillissant. L'Asie aussi commence à vieillir avec le phénomène en Chine de un descendant par famille. Alors évidemment, ça va précipiter un vieillissement dans quelques dizaines d'années. Donc on va atteindre bientôt le seuil de 500 millions d'habitants. C'est pas négligeable, bien sûr, c'est quand même une fraction relativement faible d'une population mondiale qui représente plus de 7 milliards d'habitants. Donc on sait que en fait plus de la moitié de la population se trouve en Asie. Et puis par rapport à des continents qui ont une croissance démographique importante, comme l'Afrique, évidemment, c'est inférieur. Mais on atteint quelque chose qui n'est pas négligeable, 500 millions d'habitants, en plus, on va le voir, avec des ressources considérables. Les ressources qui sont présentes sur ces territoires représentent des richesses énormes. Bon, j'ai travaillé il y a quelques temps, là où nous travaillons dans notre laboratoire, sur l'Amérique du Sud. Et on dit évidemment que l'Amérique du Sud, c'était aussi un continent qui a des réserves considérables, bien sûr, que ce soit l'eau, que ce soit les minerais, que ce soit les hydrocarbures. Mais je dirais la même chose de l'Amérique du Nord. Il ne faut pas oublier que l'Amérique du Nord a une production agricole considérable, que ce soit les céréales, le soja. Enfin, ce sont peut-être des banalités, mais peut-être qu'il faut rappeler ici les productions de fruits, des oranges, des agrumes, les productions d'élevage, de bovins, de porcins, les produits maraîchers, les légumes, les tomates, la vigne, le vin, les produits tropicaux et subtropicaux, café, cacao, canne à sucre. Et puis aussi les produits de la mer, les produits halieutiques. Nous avons des réserves ici considérables, que ce soit du côté de l'Atlantique Nord ou du côté du Pacifique également. Le Canada et les États-Unis sont de grandes puissances agricoles. Le Mexique, évidemment, l'agriculture du Mexique a beaucoup baissé, on l'a rappelé. Le Mexique, à l'heure actuelle, évidemment, avec une population qui est nombreuse, n'est plus autosuffisant. Mais globalement, l'ensemble nord-américain représente quand même une autosuffisance assez importante, assez estimable. Alors, je vais passer maintenant rapidement à d'autres ressources. Il y a des ressources sur lesquelles on ne parle pas beaucoup. Bon, la faune, la flore, évidemment, les ressources en eau. Je voyais là, on rappelait que les lacs, les grands lacs à l'heure actuelle sont pratiquement la superficie des grands lacs est pratiquement totalement englacée à cette époque de l'année. Évidemment, c'est peut-être un hiver particulièrement dur. On dit que 94% des grands lacs sont englacés en ce moment. Mais ces grands lacs représentent quand même un cinquième de l'eau douce dans le monde. C'est-à-dire que bien sûr, il y a le bassin de l'Amazone en Amérique du Sud qui représente une masse d'eau est considérable également. Vous avez le bassin du Congo, mais les grands lacs, c'est aussi une réserve extraordinaire d'eau disponible pour l'humanité. Je voudrais rappeler également certains éléments concernant le patrimoine historique, le patrimoine naturel, les grands sites. C'est vrai que les États-Unis ont été le premier pays qui a créé des parcs nationaux juste dans les années 1870-1872, et ces parcs n'ont fait qu'être multipliés. Et puis au fond, l'exemple nord-américain a été suivi ailleurs, puisqu'on a développé des sites du patrimoine, soit du patrimoine naturel, soit du patrimoine historique. Et il faut rappeler à l'heure actuelle que sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a au moins une cinquantaine de sites en Amérique du Nord qui sont mentionnés avec des richesses archéologiques majeures. Pensons par exemple aux civilisations mexicaines, les Mayas, les Aztèques, etc. Et j'en viens à un autre point maintenant qui n'a pas souvent été évoqué, c'est le potentiel touristique considérable. Parce qu'on dit les services, etc. Mais dans ces services, en réalité, c'est souvent le tourisme, les transports et le tourisme. Et c'est quelque chose de très important. La richesse en espaces que j'évoquais, disons que ce soit les espaces naturels ou que ce soit des sites historiques comme la vieille ville de Québec, disons la ville de Mérida, la ville de la Nouvelle-Orléans, ce sont des endroits qui attirent les voyageurs pour les loisirs et les vacances. Et ça se traduit par un potentiel touristique considérable. Pensez aux visites, aux randonnées, aux croisières, les parcs nationaux que j'évoquais. Le Miami est le premier port de croisière dans le monde, évidemment, en direction des Caraïbes essentiellement, mais aussi en direction du Mexique et de l'Amérique centrale. Mais vous avez aussi des croisières sur le côté Pacifique. Les sports, alors on parle des Jeux Olympiques en ce moment, on a eu quand même pas mal de Jeux Olympiques en Amérique du Nord. Les trois pays se situent parmi les grandes destinations touristiques dans le monde. Bien sûr, les pays européens, et mon pays en particulier, qui est un des pays les plus développés au niveau du tourisme, bien entendu, se trouve parmi ces grands pays touristiques. Mais quand même, les États-Unis, quand on relève dans les statistiques, les États-Unis se retrouvent devant la France au niveau des recettes touristiques. Parce que finalement, les dépenses touristiques aux États-Unis sont plus importantes. Le Canada est très bien placé également. Hein, et le Mexique, se trouve vers le 10e, 12e position. C'est un important pays touristique, avec plus de 23, 24 millions de visiteurs par an. Donc ce sont des ressources qui sont pas négligeables du tout, et qui ont une grande influence, je dirais, sur... l'image internationale des pays. Parce qu'à partir du moment où un pays est un grand pays touristique, voyons par exemple l'Espagne, l'Italie avec les sites, la Grèce, etc., ce sont des pays qui sont connus et reconnus et souvent qui sont enviés. Évidemment, donc c'est quelque chose qui est apprécié au niveau international. Alors sur le plan géopolitique, il y a une ressource qui l'emporte, à mon avis, évidemment, on en parle de plus en plus, sur toutes les autres ressources, c'est évidemment le secteur énergétique. Alors je vais consacrer une petite partie là à la question énergétique, parce que la question énergétique est devenue une question complètement stratégique à l'heure actuelle. Mais sans oublier que le continent nord-américain recèle également une richesse minérale. Donc les minerais métalliques, des minerais non métalliques, les minerais précieux, évidemment l'or et l'argent. On nous a dit effectivement, on nous a expliqué comment on pouvait exploiter des filons d'or et d'argent que les colons espagnols étaient bien en peine d'exploiter avec des moyens un peu rudimentaires qu'ils possédaient. Mais alors à l'heure actuelle, évidemment, avec les moyens formidables qu'on a, on peut araser une montagne et essayer de trouver un filon d'or qui n'a jamais été découvert par les Espagnols, en tout cas au moins l'exploiter pour trouver les 2 grammes d'or, comme on le disait tout à fait. Donc en fait, là, il y a des richesses qui sont dans les sols et qui vont être qui sont en train d'être exploitées. Évidemment, les compagnies sont là-dessus. Alors, quand on parle de l'énergie, on pense tout de suite pétrole et gaz. C'est vrai, vous avez raison, on a raison. Mais ne pas oublier le charbon. À l'heure actuelle, disons que le charbon est pratiquement la première énergie, en fait. Et le charbon est de plus en plus utilisé. On pense que c'est le pétrole qui est de plus en plus utilisé. En fait, c'est le charbon. Curieusement. Et l'Amérique du Nord n'est pas pauvre en charbon. En fait, les États-Unis accroissent régulièrement leur production de charbon. Il y a du charbon au Canada aussi, d'ailleurs, un peu moins au Mexique. Mais, alors évidemment, le charbon, c'est très polluant, bien entendu. Mais à l'heure actuelle, il faut faire avec tout ce qu'on a, n'est-ce pas? Vous avez la machine chinoise qui demande très rapidement là, de l'énergie, rapidement. Donc, avec des conséquences considérables, évidemment, puisque ce charbon est très polluant. Alors, derrière la Chine, qui est le premier producteur de charbon dans le monde à l'heure actuelle, vous avez directement les États-Unis. Les États-Unis utilisent le charbon parce que le charbon est loin d'être dépassé et ils exportent du charbon. Il y a des trains entiers qui débarquent à Norfolk et qui exportent le charbon là où on va l'acheter. On va l'acheter en Europe, on va l'acheter pour des usines thermiques qui vont utiliser ce charbon-là. À l'heure actuelle, ça représente à peu près 13-14% de la production mondiale. Donc la production de charbon recule dans les Appalaches, mais elle est très florissante dans l'état du Wyoming, qui recèle la plus grande mine du monde, apparemment, à l'heure actuelle, une mine à ciel ouvert, Powder River Basin. Dans les plaines de l'Illinois et l'Indiana également, il y a des grosses mines de charbon. Donc ça, on a tendance à l'oublier, sauf qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, évidemment, on en vient au pétrole, on en vient au gaz, et évidemment, on va examiner la situation dans les 3 pays concernés. Au Canada, le développement des schistes bitumineux de l'Alberta malgré l'impact négatif sur l'environnement, les gaz à effet de serre en particulier, qui sont très importants, ne fait que croître. Et donc, à l'heure actuelle, disons que la production grandit rapidement, et le problème, évidemment, comme vous savez, c'est le problème de sortir, en quelque sorte, ce pétrole, et puis de l'acheminer vers des raffineries, et l'acheminer aussi vers les marchés qui pourraient l'acheter. Alors donc là, il y a un problème considérable, effectivement, que je ne vais pas traiter, que vous connaissez d'ailleurs, et quelques solutions qu'on emploie, de toute façon, il s'agit de franchir des milliers et des milliers de kilomètres, parce que si le pétrole est conduit par un pipeline qui va passer par le Québec, qui va arriver à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, c'est quand même quelques milliers de kilomètres. Si le pipeline Keystone XL va arriver sur la région de Beaumont ou de Houston, c'est quelques milliers de kilomètres aussi, donc ça va prendre un certain temps pour le construire. C'est aussi des gaz à effet de serre. Si on traverse les montagnes rocheuses, donc d'une part on va traverser peut-être des territoires indigènes en partie, donc il faudra négocier avec les indigènes, avec les autochtones, et puis d'autre part il y a des problèmes de protection de la nature dans les zones des montagnes rocheuses, mais vous avez du côté du Pacifique évidemment des marchés qui n'attendent que ce pétrole-là. Donc aux États-Unis, la situation est assez favorable aussi pour l'instant, parce qu'il y a une sorte de boom du pétrole de schiste, il y a les gaz de schiste également qui sont très importants, en particulier au Texas. On a dit que les États-Unis pourraient devenir le premier producteur mondial de pétrole dans les prochaines années, disons vers l'horizon 2018-2020, devant l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, c'est un membre de l'OPEP. Alors là, effectivement, après, c'est une question de négociation aussi, de rapport de force avec les pays de l'OPEP. Mais d'ores et déjà, les États-Unis sont exportateurs de produits raffinés. Parce que le Mexique, on a parlé du Mexique là ce matin, là, concernant, la libéralisation de l'industrie des hydrocarbures, en réalité, c'est que le Mexique, à l'heure actuelle, n'est pas autosuffisant en produits pétroliers. Parce qu'en fait, l'essence qui est vendue par Pemex, par la compagnie nationale Pemex, en fait, c'est de l'essence qui est achetée au Texas, ou qui est achetée à l'extérieur, parce que les raffineries mexicaines ne produisent pas suffisamment de produits raffinés. Donc ils produisent du brut, mais ce brut, il part au Texas pour être raffiné, éventuellement revenir le Venezuela se trouve plus ou moins dans cette même situation-là, c'est paradoxal, hein, des gros producteurs de pétrole qui n'ont pas suffisamment d'essence, en fait. Donc les États-Unis ont un potentiel à partir du pétrole de schiste, et à partir du gaz de schiste, disons, de devenir un gros producteur, alors qu'ils étaient à un moment donné, ils paraissaient comme déficitaires, donc la situation a été complètement transformée. Donc la donne a été complètement changée. Et donc ça va avoir des conséquences sur le plan géopolitique. Alors au Mexique, bon, ce qui nous a été dit tout à l'heure était très précis et très intéressant, le changement de la loi donc, qui était faite de la loi constitutionnelle, on peut dire, les articles de la loi constitutionnelle vont amener des changements rapides, à mon avis. Enfin, c'est l'avis de la plupart des observateurs. Les investisseurs vont venir, bon, on nous a cité un investisseur russe, Lukoil, mais je pense que les Américains, les Canadiens, les Européens vont pas trop tarder non plus pour venir prospecter, sur le territoire mexicain, mais c'est pas tellement sur le territoire mexicain. En fait, vous savez, les réserves mexicaines sont plutôt, on l'a vu un petit peu sur la carte rapidement ce matin, elles sont plutôt dans le golfe du Mexique, et surtout dans la zone qui se trouve vraiment, qui est adjacente à la zone texane, en fait. Disons dans les eaux qui sont entre le Texas et le Mexique. Donc on va voir des investissements certainement considérables, et évidemment la balance énergétique de l'Amérique du Nord va changer considérablement. Ça ne veut pas dire que les réserves sont ce qu'elles sont, hein. Les réserves de l'Amérique du Nord sont importantes, elles sont moins importantes que celles des pays du Moyen-Orient, certes. Elles sont moins importantes que celles du Venezuela, certes, mais elles sont en train d'être développées et d'être développées assez rapidement. Donc là, il va y avoir des changements assez rapides. Je peux vous donner des chiffres donc, qui sont récents là, sur les réserves prouvées. C'est la référence de base, c'est le BP Statistical Review of World Energy pour fin 2012, qui montre des réserves prouvées de, disons, le total de l'Amérique du Nord, c'est 33,8 milliards de tonnes pour le pétrole, c'est quand même pas négligeable. L'Amérique, pour vous dire, l'Amérique du Sud a un peu plus. L'Amérique du Sud aurait 50 ou 51 milliards. Mais vous voyez, il y a une sorte d'équilibre entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'est pas si déséquilibré que ça, même si le Venezuela, théoriquement, hein, dans la ceinture de l'Orénoque, il y aurait presque 46 milliards de tonnes, ce qui est énorme. Mais seulement, c'est pas mis en valeur pour l'instant. Alors, le Canada, évidemment, avec les schistes bitumineux de l'Alberta, en a une grosse partie, mais les États-Unis ont une partie également. Et la production aux États-Unis augmente rapidement, je vous le disais. La production au Canada augmente rapidement. Au Mexique, elle a tendance à stagner parce que la Pemex, la compagnie Pemex, ben, n'était pas du tout au niveau sur le plan technique, puisqu'en fait, ils n'avaient pas réinvesti. Comme ils n'avaient pas réinvesti, ils ont eu des gros problèmes, ils ont eu des fuites, des puits qui ne donnent rien, ils ne réinjectent pas, de sorte que finalement les puits ne sont pas producteurs. Donc il y a des désastres écologiques aussi dans le golfe du Mexique qui ont été réalisés par la compagnie Pemex. Il faut savoir que dans le Campeche et dans le Tabasco, les pêcheurs ne peuvent pratiquement plus pêcher maintenant parce que c'est tellement pollué qu'il n'y a plus de production de poissons. Alors, ça, c'est les réserves de pétrole, mais pour les réserves de gaz, il y a des réserves importantes également, qui sont certes beaucoup moins importantes que d'autres réserves, dans les régions du Moyen-Orient ou même en Amérique du Sud. C'est vrai qu'en Amérique du Sud, il y a aussi des réserves assez importantes. Mais finalement, les trois pays sont assez bien placés, que ce soit les États-Unis, le Canada et le Mexique. Alors, qu'est-ce que ça va changer ? Ben, l'Amérique du Nord va disposer dans la prochaine décennie d'avantages considérables dans la concurrence internationale. Avec une énergie traditionnelle, charbon, pétrole et gaz, abondante, elle aura moins besoin de diversifier que les autres régions. Alors que nous, en Europe, on en est sur l'énergie nucléaire, comme en France, les Allemands se tâtent pour essayer de fermer leur usine de production nucléaire et essayent de trouver des sources d'énergie alternatives qui sont fort chères, que ce soit l'éolien, que ce soit le photovoltaïque, etc. Et disons que pour l'instant, la situation est très favorable aux pays d'Amérique du Nord. Le Canada s'est trouvé dans la situation où il a d'ailleurs renoncé au protocole de Kyoto. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il pensait qu'il n'était pas capable de remplir les conditions pour du protocole de Kyoto. Il a préféré se retirer directement. Donc là, de ce côté-là, la situation était plus claire et plus honnête d'une certaine manière. Alors, la situation est telle qu'elle affaiblit la position des pays de l'OPEP, elle affaiblit aussi la position de la Russie, d'une certaine manière, qui se prétendait un peu le pourvoyeur de pétrole et de gaz, en particulier pour l'Europe. Et concrètement, dans le continent américain, ça affaiblit la position du Venezuela. Sachant que le Venezuela se retrouve un petit peu dans la même position que le Mexique, c'est-à-dire qu'il a une compagnie nationale, PDVSA, mais qui est sous-capitalisée et qui, en fait, n'est pas capable d'assurer une production normale, et la production recule au Venezuela à l'heure actuelle. Donc le Venezuela, théoriquement, aurait des réserves considérables, mais a des grosses difficultés pour développer sa production, et le pays est affaibli pour des raisons économiques et des raisons politiques également. Alors, je vais conclure pour cette partie au moins, parce que je serai à votre disposition éventuellement pour répondre à des questions, pour développer peut-être d'autres points sur le plan géopolitique, mais pour dire que pour l'instant, cette barrière, ce qu'on appelait le pic de production énergétique, qui a été souvent placé vers notre époque, là, vers 2010-2020, ce pic de production est en train d'être un petit peu repoussé. Alors vous allez me dire, finalement, on repousse pour mieux sauter, mais bon, on va repousser jusqu'à 2030, jusqu'à 2040, etc. Ça donne quand même un champ de 20 ou de 30 ans que l'Amérique du Nord va utiliser pour asseoir sa puissance. On est effectivement dans la région qui a, de toute façon, l'hégémon. L'hégémon, il est là, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, que c'est, bon, l'asymétrie a été décrite, j'ai pas besoin d'y revenir, mais étant donné qu'on a l'hégémon au milieu, en plus, entre les deux pays, les deux États, en plus, on a donc la force stratégique, la puissance stratégique, les commandes militaires et de coopération militaire éventuellement avec le Mexique et avec le Canada. On peut supposer que les petites questions de navigation dans les détroits du Nord-Ouest, c'est quand même pas très très grave. On a la ressource stratégique en particulier du pétrole et du gaz conventionnel et non conventionnel. Donc, ces pays disposent au final d'une situation enviable et peuvent être considérés comme autosuffisants. Alors, à partir du moment où ils sont autosuffisants, ils vont continuer certainement à établir des accords avec d'autres régions, puisque, en fait, c'est la tradition aussi, d'une certaine manière, du libre-échange, du commerce ouvert. Mais au fond, ils vont négocier dans une position qui sera assez avantageuse. De toute façon, tel que on peut regarder les choses comme ça d'en haut et disons de l'extérieur, on peut penser que ces trois pays, ont les moyens d'assurer à leur population une prospérité durable, au moins jusque vers la fin du XXIe siècle. Donc c'était ça un peu le thème de mon intervention. Alors évidemment, quand on regarde les choses comme ça, on insiste sur l'élément de puissance. J'ai pas parlé des éléments de faiblesse. Les éléments de faiblesse, bon, je pense que les tables rondes, les exposés ont montré, y compris hier tous les aspects sociaux qui ont été évoqués, ont montré, donc je n'ai peut-être pas besoin. Et la géopolitique, c'est ça, bon, c'est les points de puissance, et après, les faiblesses, on essaye d'y remédier. Voilà. Merci de votre attention.